Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez après VibraSOS. Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur graphite.net si vous nous écoutez sur internet en direct ou en différé grâce au podcast et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de ce 23 octobre. Et il y a eu des choses quand même le 23 octobre. En 1814, c'est la première chirurgie plastique qui a été réalisée par Joseph Constantin Carpu. En 1814 quand même, hein, chirurgie plastique pour la première fois, c'était un 23 octobre. Plus proche de nous, le lancement du premier iPod par Apple, c'était en 2001, ça fait déjà 20 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et beaucoup plus proche de nous, le 23 octobre 2018, j'arrive jamais à le dire, hein, le premier dirigeant là, chinois Xi Jinping inaugure le plus long pont maritime du monde qui relie Hong Kong à Macao, c'était il y a 3 ans. Naissance, le 23 octobre 1944 de Désiré Édouard Branly. Tiens, Branly, ça nous dit quelque chose. Oui, on pense bien sûr au quai Branly. C'est un physicien, un médecin français. Il découvre le principe de la radioconduction et celui de la télémécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Branly, c'est quand même l'un des précurseurs de la radio. Merci, monsieur Branly. Vous êtes né un 23 octobre 1844 à Amiens. Vous êtes Picard, en plus. Radiographite vous aime. Et le décès, le 23 octobre 1905, du zoologiste français Émile Oustalet. Alors autant Branly, il a eu une certaine notoriété, autant Émile Oustalet, j'ai pas trop l'impression que ce zoologiste français avait une renommée aussi importante, mais en tout cas il était important de célébrer sa mémoire. Émile Oustalet décédé donc le 23 octobre 1905. Biotine, c'est l'actualité scientifique. On parle un petit peu de toutes sortes de sujets. Alors on avait parlé pas mal d'animaux la semaine dernière pour se faire plaisir. Là on va revenir sur des sujets un petit peu plus à terre à terre, mais aussi intéressants parce que ça concerne notre quotidien et notamment nos habitations. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués dans différents articles scientifiques. Donc on va essayer de voir cela. Notamment cette peinture révolutionnaire. C'est un nouveau record hein, pour une équipe de chercheurs de l'université de Purdue, c'est aux États-Unis. Cette équipe travaille sur une peinture plus blanche que blanc. J'adore ça, ça me fait penser à un vieux sketch de Coluche dans les années 70-80. Et là, on veut une peinture qui soit plus blanche que blanc. Alors, en octobre dernier, ils avaient annoncé une peinture capable de refléter 95% de la lumière. Eh bien, une nouvelle formule qui vient encore plus loin, qui est encore plus blanc que blanc, parce qu'elle reflète 98% du rayonnement solaire tout en émettant de la chaleur infrarouge. Cette peinture est donc la plus blanche au monde. Et elle vient d'être inscrite dans le livre Guinness des records. Elle est tellement blanche, et c'est ça qui est intéressant, elle est tellement blanche qu'elle refroidit tout objet qui est peint justement avec cette peinture blanche. Quand on l'applique sur des bâtiments, eh bien elle réduirait les besoins en climatisation. C'est quand même assez génial. Selon Julien Huang, qui est le professeur en ingénierie mécanique et qui est donc l'un des auteurs de l'article, eh bien cette peinture est plus puissante que les climatiseurs utilisés pour la plupart des maisons, dit-il. Alors, si on applique sur un toit de 90 mètres carrés, eh bien cette peinture produirait une puissance frigorifique de 10 kW et ça pourrait donc représenter une alternative aux climatiseurs traditionnels. C'est quand même assez bluffant. Le secret de la formule, c'est le sulfate de barium qui est utilisé dans le papier photographique et dans les produits cosmétiques. Et la longueur d'onde réfléchie dépend de la taille des particules. Et donc, on va inclure dans cette peinture des particules de sulfate de barium de taille différente. Et donc, la peinture, elle va réfléchir à un spectre lumineux de plus en plus large. Et donc, du coup, si on peut refléter de plus en plus large, on va pouvoir refléter de plus en plus de lumière. Et donc, du coup, on va pouvoir enlever un petit peu la chaleur de ces rayons lumineux. C'est une recherche qui est quand même assez intéressante et importante parce que c'est le fruit de 7 années de recherche et ça avait été créé au départ avec l'intention de combattre le changement climatique. Alors, elle sera disponible, nous dit-on, assez rapidement au grand public. public, puisque les chercheurs ont déjà trouvé un partenaire pour sa commercialisation. Donc on pourrait bientôt peindre nos maisons avec cette peinture plus blanche que blanc et pouvoir ainsi avoir un système de climatisation assez performant. Bon, faut voir ça sur leur terrain quand même, je ne sais pas si c'est totalement efficace tel que c'est annoncé, on verra bien sûr. Mais c'est quand même dans le livre Guinness des records, donc on se dit pourquoi pas, on peut essayer de les croire, et on va essayer de les croire, et ça nous fera plaisir. Biotine, émission d'actualité scientifique, et émission de musique aussi. Darkness Rises, c'était Parlor Snakes sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de nos habitations avec bien sûr cet objectif aussi de pouvoir produire de l'énergie parce qu'on sait très bien que c'est un défi assez important pour pouvoir essayer d'avoir de l'énergie. Et on a donc deux informations assez intéressantes qui reposent essentiellement sur l'énergie solaire. Alors premièrement, on sait très bien, énergie solaire, on pense bien sûr aux panneaux solaires sur les toits. C'est très bien, ça existe déjà. L'idée, c'est de pouvoir essayer de développer d'autres solutions pour pouvoir compléter. Et si on pouvait, par exemple, poser des panneaux solaires sur les fenêtres, ça serait encore mieux, bien sûr. Alors, ça serait bien, mais c'est pas transparent, le silicium. Donc, on verrait rien à l'intérieur. Ça serait pas génial. Alors, il y a des chercheurs qui essayent d'explorer différentes pistes. Et depuis quelques temps, ils essayent de travailler sur d'autres matériaux qui seraient capables de pouvoir collecter l'énergie du soleil pour pouvoir donc produire de l'électricité. Des matériaux organiques, et certains s'avèrent plutôt efficaces. Et on utilise, alors le nom est assez compliqué, ce sont ce qu'on appelle des accepteurs non fullerènes. L'idée, c'est que ces cellules solaires, eh bien, elles pourraient essayer de pouvoir obtenir de l'énergie qui nous provient du soleil, de pouvoir produire l'électricité. On va incorporer du soufre et on obtient des rendements avec ces matériaux-là, des rendements de 18%. C'est bien. En fait, c'est comme si on utilisait le silicium, c'est-à-dire les panneaux solaires traditionnels. Donc, c'est bien, mais sans plus. En plus, il y a une courte durée de vie d'utilisation. Donc, finalement, on s'est dit, c'est bien, mais c'est pas génial. Alors, on va essayer de trouver des solutions un peu alternatives. Et il y a des travaux d'une équipe internationale de chercheurs qui se sont penchés justement toujours sur ces accepteurs non fullerènes et pour pouvoir essayer d'ajouter différents procédés ou différents matériaux. Alors, ils vont rajouter de l'oxyde de zinc. Alors, on en trouve notamment dans les crèmes solaires. Il y a toujours cette idée de pouvoir capter et faire attention aux rayons du soleil. Et pour éviter aussi que ça fragilise, eh bien, on va rajouter un matériau à base de carbone. Et on va essayer de pouvoir mettre en place un espèce de... comme un millefeuille, vous voyez, un petit peu de matériaux où on va essayer de faire différents mélanges, différentes superpositions et voir qu'est-ce que l'on a comme résultat. Et en fait, on trouve des résultats assez intéressants d'un dispositif qui a été créé. Alors, d'un point de vue matériaux et technologique, on ne va pas s'avancer là-dessus parce que c'est assez compliqué, mais il n'empêche qu'ils ont réussi à développer des fenêtres, entre guillemets, qui pourraient justement fournir de l'électricité, qui fonctionnerait toujours à 80% de leur efficacité après 30 ans. Donc, c'est assez intéressant aussi, c'est d'avoir une durée, d'avoir une robustesse. Et alors, il faut qu'ils améliorent un peu l'aspect transparent parce que pour l'instant, elles ne sont transparentes que de 40%, donc c'est pas génial, ça reste encore assez sombre. Les chercheurs voudraient plutôt viser 60% en termes de transparence, mais en tout cas, ils sont sur une bonne piste. Et une piste d'autant plus intéressante que les coûts de fabrication sont relativement faibles. Donc, on commence à avoir des prototypes de fenêtres qui seraient capables de fournir de l'énergie grâce à ces cellules photovoltaïques. Hein, c'est le nom de cette technologie. C'est assez prometteur. Et du coup, on commence à trouver les moyens de pouvoir prolonger un petit peu l'efficacité de ces panneaux solaires sur une durée de 30 ans, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, si on avait des panneaux solaires traditionnels sur les toits et auxquels on ajoute ces panneaux solaires transparents, entre guillemets, au niveau des fenêtres, on augmente la surface, donc on augmente la possibilité de pouvoir produire de l'électricité et à moindre coût, enfin à moindre coût, à coût raisonnable, on va dire, enfin d'un point de vue productivité, c'est assez intéressant et ça serait aussi assez endurant. Donc une bonne nouvelle au niveau de ces fenêtres. Même chose, ou en tout cas, même idée au niveau des tuiles solaires. Parce que du coup, on se dit que on pourrait, par exemple, essayer d'avoir des tuiles solaires. C'est d'autant plus intéressant que les panneaux solaires, oui, ça fonctionne, mais en fait, d'un point de vue esthétique, c'est pas génial. Et en zone classée, eh bien, c'est totalement irrecevable, notamment par les architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où il est impossible de pouvoir poser des panneaux solaires parce qu'on considère que, d'un point de vue architecture, ça dénature tout. Et donc, on a l'idée de produire des tuiles solaires. Et c'est notamment une société qui s'appelle Ediliance qui a proposé 4 modèles de tuiles solaires de couleur rouge. Du coup, ça respecte un petit peu les consignes ou cahier des charges, entre guillemets, des toitures traditionnelles. Et selon les besoins, il y a 2 grandes familles de tuiles solaires qui sont proposées donc par ce fabricant. La première, elle intègre un châssis spécifique en aluminium galvanisé qui résiste aussi bien aux intempéries qu'aux UV. Et la seconde famille regroupe 3 modèles de tuiles. Et on a des tuiles en terre cuite et on a également des cellules photovoltaïques qui sont posées dessus. Mais du coup, on a la possibilité de pouvoir avoir un dispositif assez performant. Et puis, ces tuiles s'emboîtent très bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée d'avoir un toit normal, entre guillemets. D'autant que ces modèles, en plus, assure une étanchéité optimale de la toiture, ce qui est aussi une performance parce que c'était un peu un blocage technologique qu'il fallait pouvoir résoudre. Alors, en fonction des besoins en énergie et de l'état de la toiture, eh bien, la surface nécessaire avec ces tuiles photovoltaïques, elle est déterminée à l'aide d'outils spécifiques. Et en cas de difficulté technique, eh bien, on pourra donc avoir en plus un bureau d'études supplémentaire qui permettra d'apporter des solutions spécifiques sur mesure. Et lors de la mise en œuvre, eh bien, le raccordement des tuiles photovoltaïques les unes aux autres s'effectue avec des raccords électriques qui finalement fonctionnent très bien et ne dénaturent pas le dispositif. Et à la fin, eh bien, on va donc mettre ces tuiles qui vont s'emboîter, qui vont se connecter les unes aux autres. Et au final, on va pouvoir mettre la dernière tuile pour finir le dispositif. La dernière tuile sera raccordée à un micro-onduleur et c'est grâce à ce micro-onduleur qu'on va pouvoir transformer l'énergie qui provient du soleil en énergie électrique. Alors, décliner des tuiles solaires en rouge, ça permet bien sûr une intégration optimale là où on l'a dit, les panneaux solaires classiques sur à coup sûr refusés. Alors, ça affiche un surcoût quand même de 20%, qui n'est pas négligeable. Le budget pour l'installation se situe quand même à un coût un peu supérieur aux panneaux solaires classiques. Mais en tout cas, c'est une alternative photovoltaïque qui est saluée par les architectes des bâtiments de France, si bien que c'est donc une solution d'énergie photovoltaïque qui est acceptée et qu'on pourrait déployer voilà, sur certains bâtiments classés. Et ça peut être aussi une solution vraiment intéressante. On le sait très bien, le fait de produire de l'électricité, l'énergie, ça va être un vrai défi de notre civilisation. C'est un défi qui est déjà présent. On voit très bien les sujets qui concernent le réchauffement climatique, ça concerne aussi l'énergie. Et donc, du coup, si on peut produire d'un point de vue très local au niveau des bâtiments l'énergie dont on en a besoin, ça peut être pas mal. On sait très bien que le solaire est une piste intéressante et que du coup, on arrive vraiment à développer des solutions technologiques efficaces, performantes de plus en plus. Voilà, 2 solutions qui sont proposées, les fenêtres et les tuiles solaires seront peut-être voilà, des choses que l'on verra maintenant sur les maisons assez prochainement. Alors, on n'a pas nécessairement d'informations sur le coût exact de cela et pas non plus une échéance qui est véritablement affichée, mais en tout cas, on voit très bien que ces technologies sont de plus en plus maîtrisées et on voit très bien donc que ça va bientôt venir rapidement dans nos quartiers. On suivra ça bien sûr tous ensemble. Allez, un peu de musique, on continue de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes toujours sur Graphite et vous êtes bien. City's Lights, c'était Ocala sur l'antenne de Graphite. L'un des supports de vulgarisation scientifique, c'est la presse écrite et notamment Science et Avenir. Alors, quelques articles de Science et Avenir, des petites brèves de Science et Avenir de l'édition du mois d'octobre. Par exemple, la résistance de la pistache, je vais y arriver, qui a été élucidé, on sait pourquoi. Parce que de tous les fruits à coque, c'est la pistache qui possède la coquille la plus dure. Et son secret, eh bien, on le sait enfin, ce sont des cellules qui sont emboîtées et qui sont interconnectées au niveau tridimensionnel. Et chacune de ces cellules, elle est liée à 14 autres cellules par des structures moléculaires, en espèce de joint à rotule. C'est un peu comparable à l'articulation de la hanche humaine. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, ce dispositif pouvait être intéressant parce que la résistance permettrait justement d'inspirer des nouveaux types de pare-chocs, par exemple, ou de casques de sécurité, selon les biophysiciens. Et c'est encore l'idée que la nature peut nous donner des exemples assez intéressants pour produire, voilà, des solutions technologiques totalement performantes. Autre chose concerne les oiseaux, certains petits oiseaux qui prennent des risques inconsidérés pour ramasser quelques poils afin de garnir leur nid. Ils se servent même directement des fois sur le dos des chats, des chiens, des renards, des retours laveurs et même parfois sur la tête des humains. Eh bien, ce comportement fait pour la première fois l'objet d'une publication et à l'occasion, on a donc donné un nom à cette technique de ces petits oiseaux qui vont chercher des poils et des cheveux directement. On appelle ça la kleptotrichie. Ça vient du grec klepto qui veut dire voler, hein, ça donnait par exemple kleptomane, et de trichos qui veut dire cheveux ou poils. Donc on associait les deux et donc on appelle ça la kleptotrichie ou trichie. Alors je pense que c'est plutôt trichie si on garde le côté bien grec de trichos. Mais voilà, la kleptotrichie, ce nouveau nom qui est apparu dans une publication récente pour justement étudier le comportement de ces petits oiseaux. Autre chose, des chimistes qui ont mis au point un cocktail pour faire fuir les pucerons. Pour cela, ils ont extrait un petit peu les composés volatiles responsables de l'odeur des coccinelles. Et les coccinelles, ce sont les prédateurs les plus impitoyables. Et donc, ils ont récupéré uniquement les composés volatiles, un petit peu les odeurs, on va dire. Et ils ont présenté cela aux antennes des insectes parasites, donc aux pucerons. Et donc, on a fait un espèce d'électro-anténogramme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a pu déterminer quelles étaient les molécules les plus repoussantes. Et donc, on a trouvé quelque chose d'assez naturel, entre guillemets, pour pouvoir essayer de combattre les pucerons. Et donc voilà, on leur a mis directement ces molécules responsables de l'odeur des coccinelles et du coup les pucerons partent et c'est une arme olfactive anti-pucerons apparemment assez efficace. Enfin, une équipe de chercheurs chinois et américains a trouvé des résidus de bière de riz sur les poteries mises à jour à Qiaotu, c'est dans l'est de la Chine, et ça date d'environ 9000 ans. C'est l'âge de la plus ancienne bière du monde, 9000 ans. Deux corps et les traces d'un édifice cérémoniel près de ces poteries suggèrent que ce breuvage était consommé à l'occasion de rites funéraires. Mais donc, du coup, voilà, 9000 ans, c'est l'âge de la plus ancienne bière du monde. Ce sont ces articles que l'on peut retrouver dans Science et Avenir, que vous pouvez voilà, lire dans le mois d'octobre. Il y a un dossier assez intéressant sur le cerveau. De toute façon, c'est très bien, très souvent qu'on en parle dans cette émission. Le cerveau est un domaine scientifique, et en l'occurrence médicale, très important en ce moment. Et du coup, il y a un dossier assez intéressant dans Science et Avenir que vous pouvez consulter. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, autre chose, comme on est du point de vue médical, tenez, cette information qui est assez intéressante et assez bluffante, c'est une nouvelle avancée qui a été annoncée dans le domaine des prothèses. Et ça permettrait aux personnes amputées d'utiliser un nouveau bras bionique comme s'il s'agissait du membre perdu. Il y a une équipe dirigée par des chercheurs de l'Université de Cleveland aux États-Unis et ils ont travaillé en collaboration avec des chercheurs canadiens. Ils ont détaillé la procédure dans un article qui a été publié récemment dans la revue Science Robotics. Et donc, les participants, ils ont subi ce qu'on appelle une réinnervation. Donc, on a réinjecté, entre guillemets, des nerfs d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue moteur. C'est une procédure où les nerfs qui conduisaient aux membres amputés sont redirigés vers les muscles et la peau qui restent. Et donc, du coup, ça crée une espèce d'interface qui conserve les mêmes nerfs que pour le membre amputé. Si bien que ça évite de devoir apprendre à commander une prothèse avec d'autres muscles. Il y a des petits robots qui touchent la peau pour transmettre les signaux sensoriels de la prothèse, qui donnent ainsi une sensation de toucher. Il y a d'autres robots vibrants, cette fois-ci, qui vont transmettre des signaux qui vont reproduire un petit peu la sensation de mouvement de la prothèse. Et donc, lorsque le patient tente de bouger son bras amputé, eh bien, le mouvement des muscles est capté et transmis à la prothèse. C'est des résultats qui sont très prometteurs et assez intéressants. Les deux patients équipés du bras bionique ont réussi à l'utiliser de façon très naturelle. L'un des chercheurs, le docteur Paul Marasco, a indiqué qu'ils ont, je cite, effectué des jugements, ils ont pris des décisions, ils ont calculé, ils ont corrigé leurs erreurs, comme une personne qui n'était pas amputée. Alors, contrairement à une prothèse un peu standard, les deux participants n'ont pas eu besoin de constamment regarder ce qu'ils faisaient et ils pouvaient facilement rectifier des erreurs, par exemple lorsqu'ils appuyaient trop fort avec la main. Et donc, selon les chercheurs, ce bras bionique devrait permettre aux porteurs de ne plus constamment compenser la présence de la prothèse et leur permettre de réfléchir, en fait, comme une personne sans amputation. C'est totalement bluffant, ces amputés qui retrouvent des sensations de toucher avec ce bras bionique. Totalement fascinant, et c'était dans un article de Futura Science. Vous voyez, au niveau médecine, on fait des avancées totalement intéressantes, et c'est important de pouvoir les évoquer dans cette émission. Allez, on continue à écouter un petit peu de musique, bien sûr, parce que ça nous fait du bien. Et moi, ça me permet de reposer ma voix. À tout de suite. Rome, c'était Easy Year sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Vous êtes sûrement habillé, je suppose, des vêtements en coton, en soie, en fibre synthétique. Ça existe. Il y a même des vêtements avec des algues qui existent également, avec des champignons, bien sûr. Mais il y a des chercheurs de la McElvey School of Engineering, Université de Washington, qui ont eu une nouvelle idée. Mais ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas des vêtements en fibres musculaires? Oui, c'est vrai, mais pourquoi on ne le ferait pas? Des fibres qui seraient biodégradables, qui seraient plus solides que le Kevlar, qui pourraient aussi servir de lacets ou de ceinture. Eh bien, ça fait longtemps en fait que les chercheurs essayent de fabriquer des muscles artificiels en laboratoire pour actionner des robots, pour des prothèses, on en a parlé tout à l'heure, pour remplacer des tissus lésés. Et la plupart des expériences vise à trouver des matériaux qui pourraient avoir des propriétés similaires à celles des muscles humains. Alors, on va utiliser des polymères élastiques, des nanotubes de carbone, des alliages à mémoire de forme. On utilise même parfois des fils de nylon. Eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ces matériaux qu'on essaye de créer, ils ont tous des inconvénients. Soit c'est cher, soit ça s'use rapidement, soit c'est pas vraiment élastique, soit c'est difficile pour reprendre une forme initiale. Bref, c'est pas génial. Alors, le tissu musculaire, on le sait, il est composé de fibres musculaires qui sont organisées en faisceaux. Et on s'est dit, mais pourquoi pas s'inspirer de la biologie qui produit des muscles depuis des millions d'années? La nature, elle est capable de produire de nombreux matériaux biodégradables à haute performance et pour un faible coût énergétique. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? C'est ce que s'est dit notamment Christopher Bowen, qui est le principal auteur de cet article paru dans la revue Nature Communications. Alors, l'idée, c'est pas de tuer un animal, bien sûr, pour essayer de récupérer ses muscles. L'idée, c'est de développer un procédé chimique qui permettrait de polymériser ces protéines et donc de créer des fibres musculaires. Et donc, cette équipe a conçu des bactéries qui vont pouvoir synthétiser une fibre dont les propriétés mécaniques sont exceptionnelles, largement supérieures à celles des matériaux synthétiques et naturels. C'est ce qu'attestent les chercheurs dans leur étude. De plus, sa production, elle est bon marché et elle est évolutive. Selon les calculs des chercheurs, eh bien, un litre de culture de bactéries pourrait produire 250 mètres de fibres, ce qui est quand même pas mal. Le procédé est également évolutif dans le sens où il est possible d'obtenir des vêtements plus ou moins doux ou épais, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un petit peu la fibre que l'on veut. Alors, on aurait bien sûr des vêtements fantaisie, tu penses, mais aussi des vêtements de protection parce que le matériau qu'on obtient, il est quand même ultra résistant. Et ce muscle artificiel pourrait également être utilisé pour des applications médicales du fait qu'il soit biocompatible. Il n'y aurait pas quelque part un phénomène de rejet. Il pourrait par exemple servir pour des fils de suture, pour réparer des blessures. L'intérêt de notre méthode de fabrication est qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel matériau. Les chercheurs donc espèrent ainsi créer de longues protéines artificielles aux propriétés inédites, plus solides, plus durables que les polymères à base de pétrole. Oh, alors du coup, si on a quelque chose de plus naturel, de moins cher, qui soit aussi performant, pourquoi s'en priver? Et donc, on aurait peut-être bientôt la possibilité de s'offrir pour Noël un pull en fibres musculaires. Écoutez, le premier d'entre vous qui a obtenu ce cadeau, il m'envoie une photo, parce que je voudrais voir à quoi ça ressemble. Un pull en fibres musculaires. Je pense qu'il y a des moments où on se rend même pas compte de ce... Mais des moments où je me rends pas compte de ce que je raconte. Un pull en fibres musculaires. Je ne sais pas. On verra. Voilà. C'est ce qui nous est promis. C'est ce que nous aurons tous. Et vous verrez, ça sera la mode. Tout le monde aura son pull en fibres musculaires. Allez savoir pourquoi. En tout cas, on a bien compris que l'aspect pull, c'est l'aspect un petit peu gadget. Mais derrière, il y a vraiment des avancées très intéressantes, bien sûr. Pour en savoir un petit peu plus et d'avoir des solutions totalement performantes et intéressantes. Autre chose, on va parler de sculptures d'animaux en taille réelle qui ont été identifiées en Arabie Saoudite, précisément dans la province d'Al-Jouf. Ce sont des sculptures rocheuses d'animaux en taille réelle qui ont été découvertes. Les sculptures de chameaux avaient été datées d'environ moins 2000 ans par les scientifiques, car des reliefs similaires de cette période avaient déjà connus en Jordanie. Eh bien, il y a une étude étude qui a été récemment publiée dans le Journal of Archaeological Science Reports et qui permet de réviser cette datation parce qu'on a fait une datation au radiocarbone. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces sculptures étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait, et notamment beaucoup plus anciennes que les pyramides de Gizeh, qui sont vieilles de 4500 ans. Et on a donc... alors ce site s'appelle le Camel Site, le site du chameau, parce que ce sont des structures qui représentent essentiellement des chameaux. Et ce site se révèle donc être à présent le plus ancien site connu au monde, au niveau duquel subsistent des reliefs d'animaux à taille réelle. Les sculptures, elles ont traversé des millénaires. Elles ont pourtant, bien sûr, subi pas mal de dommages, notamment à cause de l'érosion, qui a engendré la chute des premiers ponts des reliefs il y a à peu près 1000 ans. Et puis ces sculptures, elles demeurent à l'air libre, mais donc elles continuent à se détériorer, mais malgré l'érosion, on arrive quand même à discerner un petit peu quels sont les animaux que l'homme a voulu représenter à travers ces sculptures. Essentiellement des chameaux, hein. Ce sont les sculptures d'une douzaine de chameaux qui ont d'abord donné donc le nom au site, le Camel Site. Et il y a également parmi ces chameaux des chamelles au ventre très arrondi. Alors, les représentations de chameaux ne sont pas les seules à occuper les parois rocheuses. Il y a eu également des chevaux qui ont été représentés. Enfin, des équidés. On ne sait pas trop si c'est des chevaux, des mules ou des ânes. L'ensemble des animaux est sculpté dans deux ou trois couches superposées. Et selon l'anthropologue Maria Guanyin, le rendu des sculptures devait être, avant leur érosion, à couper le souffle. Il y a des photos qui existent que vous pouvez regarder. C'est vrai que c'est totalement magnifique de voir ces grandes sculptures. L'étude de la taille et de la complexité des reliefs suggère que la sculpture de chaque animal a dû nécessiter entre 10 et 15 jours de travail. Et il est probable que ces réalisations aient été le fruit d'un effort collectif parce qu'il a fallu constituer des échafaudages afin de graver les parties hautes de la roche. Et donc, selon Maria Guanyin, les chasseurs et les gardiens de troupeaux étaient très mobiles, dispersés à cette époque, et ils avaient besoin de se retrouver à des périodes de l'année. Et donc, ce site pourrait bien constituer le lieu de rassemblement d'une communauté du néolithique, et ce, durant plusieurs générations. Alors, cette hypothèse repose notamment sur le fait que les sculptures ont été modifiées à plusieurs reprises, apparemment, au cours du temps. Mais voilà, on a donc trouvé ces sculptures d'animaux en taille réelle, qui sont donc, on les connaissait déjà, mais on les a datées. Elles sont plus anciennes que les pyramides de Gizeh. Et du coup, voilà, on estime à peu près entre 5200 et 5600 avant Jésus-Christ pour la datation. C'est vrai que c'est totalement fascinant. Regardez sur Internet, vous avez des photos un peu partout de ces sculptures magnifiques. On parlait de fibres musculaires. Eh bien, on va écouter Biceps. Et ça, je me dis que finalement, c'est une superbe transition. Il est fort quand même, le programmateur musical. Personne Dial, c'était Bicep sur l'antenne de Graphite. On va parler de Mars, parce qu'il y a deux informations qui concernent Mars qui sont peut-être pas nécessairement contradictoires. Il y en a une qui est plutôt pessimiste et l'autre qui est plutôt optimiste. Commençons par la pessimiste, c'est cette étude qui a été publiée sur le site Advancing Earth and Space Science. Les scientifiques se sont penchés en fait sur la possibilité d'une mission à long terme vers Mars, qui est la prochaine étape présumée de la conquête spatiale par l'homme, bien évidemment. On en parle très souvent dans cette émission. Et les résultats en fait ne sont pas nécessairement encourageants. Une mission habitée vers la planète rouge ne pourrait théoriquement pas durer plus de 4 ans. Cette limite provient de causes naturelles, à savoir en fait les radiations qui sont émises par les rayonnements solaires et cosmiques. Et donc, passé ce délai de 4 ans et les instruments utilisés pour le retour des astronautes risqueraient d'être endommagés, les explorateurs eux-mêmes iraient au-devant de graves problèmes de santé. Et donc, cette étude, elle discerne deux rayonnements qui pourraient poser des contraintes lors d'une exploration sur Mars. Les particules énergétiques solaires et les rayonnements cosmiques qui sont originaires de différentes sources interstellaires. Et donc, ces deux phénomènes sont un petit peu des flux de particules à haute énergie qui traversent le cosmos, qui traversent le système solaire. Ce sont des rayons dits ionisants, c'est-à-dire qui peuvent provoquer une véritable cassure génétique au niveau de l'ADN quand ça traverse le corps humain, en fait. Et la problématique, elle est là. Et en dehors de notre atmosphère sur la Terre qui est protectrice et du bouclier qui est formé par le champ magnétique terrestre, eh bien, il n'existe pas vraiment de solution qui permet de se protéger de ces radiations qui traversent l'espace. Alors théoriquement, la NASA a prévu une mesure d'urgence en conseillant aux astronautes de se terrer dans un abri renforcé soit ce que l'on peut trouver sur Mars, en fait, un espèce de refuge suffisamment épais qui pourrait protéger d'un surplus de rayonnement cosmique. Mars, c'est bien sûr, on le sait, la prochaine utopie spatiale. Il y a des problèmes logistiques qui impliquent un voyage d'une telle ampleur. Il y a donc ces rayonnements cosmiques qui viennent s'ajouter à la liste des éléments à prendre en compte pour les futures expéditions humaines vers Mars. La mission devrait répondre à des contraintes et des impondérables pour essayer de préserver les astronautes et les équipements. Et ce n'est pas simple. Le lancement d'un équipage vers Mars devrait avoir lieu durant la période qu'on appelle la période de maximum solaire, c'est-à-dire quand le Soleil atteint son pic d'activité, ce qui permet ainsi aux rayons cosmiques d'être repoussés. Et selon les estimations, un vol vers Mars prendrait entre 6 et 8 mois. Je crois qu'on ne se rend même pas compte de ça. 6 à 8 mois, c'est quand même énorme. Et la durée maximale de vie sur la planète serait donc inférieure à moins de 2 ans quand on réduit ce trajet. Donc finalement, c'est un trajet très long pour ne pas rester longtemps sur place. Le danger des rayonnements cosmiques atteindrait les humains, mais aussi les composants électroniques, bien sûr, ce qui entraîne des défaillances, qui compromet ainsi le voyage du retour. Donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment, vraiment réjouissant. Alors pour l'heure, l'exploration de Mars par des astronautes reste de l'ordre du projet. La lointaine planète étant déjà parcourue par divers robots, on le sait depuis un certain temps, eux, ils mènent pour l'instant de façon assez efficace leur mission. La NASA souhaiterait donc envoyer le premier homme à l'horizon 2030. Hein, on le sait que c'est à peu près cette échéance-là. Et lui, Elon Musk, lui, il est beaucoup plus optimiste. Lui, il lui dit non, ça sera 2028. Mais en tout cas, il y a vraiment des problématiques qu'il va falloir résoudre assez rapidement pour pouvoir se rendre sur place sur Mars. Ça, c'est l'information, peut-être pas nécessairement pessimiste, on va dire peut-être un peu plus réaliste. Et pendant ce temps-là, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir essayer de construire des habitations sur Mars. Et c'est... on essaye de trouver des solutions parce que si on se dit, tiens, on va transporter une brique de la Terre jusqu'à Mars, il faut 2 millions de dollars. Une brique. Alors, si vous construisez une maison, vous imaginez le surcoût. Donc, il va falloir concrètement, si on veut construire des habitations sur Mars, utiliser les ressources disponibles sur place pour pouvoir construire, bien sûr, les habitats. Et les chercheurs envisagent généralement de compter sur les roches, sur le sol martien, sur des dépôts d'eau clairsemés. Bref, il y a une équipe de l'université de Manchester qui s'est dit, oh là là, il y a peut-être une autre solution qu'on peut mettre en place. Et ces scientifiques suggèrent de se tourner vers une ressource qui est négligée, qui est l'équipage humain lui-même présent sur place. Parce qu'ils ont en effet démontré, ces chercheurs de Manchester, qu'une protéine que l'on connaît du plasma sanguin, qui est l'albumine, elle pourrait agir un peu comme un liant pour la poussière martienne. Et donc, on pourrait essayer, en utilisant cette poussière et en prenant de l'albumine, de produire un genre de matériau qui serait aussi semblable que du béton. Ces protéines sanguines, elles ont tendance à cailler, entre guillemets, pour former une structure étendue avec des interactions connues des scientifiques, qu'on appelle des feuillets bêta. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on est capable de faire des structures qui sont fortement liantes, donc fortement résistantes et robustes. Et les scientifiques rappellent d'ailleurs qu'historiquement, les hommes ont utilisé du sang animal comme liant pour des mortiers, par exemple. Et ils soulignent donc qu'un défi majeur de la conquête spatiale pourrait finalement trouver une solution en s'inspirant de technologies médiévales. C'est-à-dire qu'on va se dire comment faisaient les premiers hommes quand ils ont, entre guillemets, colonisé la Terre, et on va faire la même chose sur Mars. Alors, il y a des tests qui ont été réalisés par les chercheurs sur ce qui, pour essayer de trouver des solutions pour permettre d'avoir un béton qui soit aussi résistant. Alors, une caractéristique qui peut encore être améliorée dans ce dispositif, ça serait d'incorporer de l'urée, donc de l'urine en clair, de la sueur et des larmes. Et du coup, ils ont fait des tests, ils se sont rendu compte que quand on mélange tout ça, le matériau il est encore beaucoup plus résistant à la compression. Et donc, ces chercheurs proposent en fait de construire des habitations avec, je cite, du sang, de l'urine et des larmes, on dirait presque Churchill. Et les chercheurs estiment qu'une mission de 2 ans à la surface de Mars pourrait permettre à un équipage de 6 astronautes de fabriquer plus de 500 kilos de cette espèce de matériau qu'on appelle l'astrocrète. C'est assez intéressant. Mais voilà, vous voyez, finalement, d'un côté, on se dit que ça va être difficile d'aller sur Mars, et de l'autre, il y en a qui sont en train de réfléchir, et il faudra réfléchir à comment on vit sur Mars. Il va falloir avoir des habitations, il va falloir se nourrir. Donc, comment on arrive à se nourrir, comment on va pouvoir produire de la culture, des végétaux, des protéines ou autres. Ce sont des véritables questions et on travaille sur ces sujets-là depuis un certain temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'articles maintenant donnent des exemples, donnent des résultats assez concrets sur ces pistes-là. Donc on va suivre ça pendant ces prochaines années, c'est totalement fascinant. C'était Biotine, l'émission de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission et on continuera à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous l'avez compris, alors j'avais encore plein d'articles sous le coude, mais c'est la fin de cette émission. Donc on verra ça samedi prochain, il y a tellement de sujets à débattre et à apprendre. C'est totalement passionnant. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Vous restez fidèles, bien sûr, à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt. Au revoir.